faut attendre que les grands partent pour l'école, enfin l'école. Alors ce matin, j'aimerais vous emmener dans 1 Samuel. C'est une histoire qu'on connaît très bien, mais elle est tellement riche. C'est un passage, un petit passage, mais qui est tellement riche. On pourrait faire plein de prédications là-dessus, et on en fait d'ailleurs. Donc 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 38. C'est l'épisode magnifique des débuts de David. 1 Samuel, chapitre 17, verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David, il avait été un petit peu vexé, un petit peu troublé de voir que personne ne voulait s'avancer pour combattre ce géant. Et lui s'est avancé. Et Saül a revêtu David de son armure. Et l'armure que a revêtu David, ça représente en fin de compte tout ce qui est humain en nous. Tout ce qu'on se met par-dessus, tout ce qu'on porte et qu'on n'a pas apporté, et tout ce qu'on pense être une solution à nos problèmes. Et j'imagine que Saül se disait en lui, ça va au moins le protéger, parce qu'il se disait, devant un géant comme ça, David, il ne va pas durer longtemps. Et David, ce qui était inquiétant, c'est qu'il ne pouvait même plus avancer. Alors qu'à un moment donné, il aurait eu besoin de courir. Et combien de fois dans nos vies, on ne sait plus avancer ? Parce qu'on est couvert de choses qui ne servent à rien. Absolument à rien. En fin de compte, Dieu, ce que nous demande, c'est de ne pas trébucher sur le chemin de la foi. C'est-à-dire de partir avec ce qu'on a et en avant, je fais confiance. Et surtout de ne pas copier ce que fait le monde. Il y a beaucoup de gens, dans nos églises, entre beaucoup de choses du monde, en croyant bien faire, bien sûr. Mais beaucoup de choses du monde rentrent dans nos églises. Et nos églises deviennent charnelles. Au lieu d'utiliser la puissance de Dieu, qui est mis devant nous. Et cette armure était vraiment un carcan pour David. C'était vraiment quelque chose qui l'oppressait, quelque chose qui l'empêchait de voler vers Goliath. Vous sentez la différence ? C'est pas de marcher, c'est de voler vers Goliath. Et c'est un peu parfois toutes ces religions, tous ces dogmes, toutes ces doctrines qu'on ajoute à la parole de Dieu, ou qu'on croit bien faire, ou qu'on croit bien d'inventer, alors que la parole de Dieu est toute simple, mais ô combien puissante. Vous avez entendu Sophie qui en a parlé. C'est quelque chose qui doit être sur notre cœur, la parole de Dieu. Et David va se servir de la parole de Dieu, et on va le voir au travers des 5 pierres. Il va ramasser en fin de compte 5 pierres polies dans le torrent. C'est-à-dire des pierres qui ont déjà été marquées par le frottement entre elles, qui travaillent. C'est des pierres qui ont travaillé entre elles et qui se sont affinées. Et quelque part, qui sont devenues dangereuses pour celui qui va être frappé, on le sait. Donc la première chose qu'a fait David, c'est qu'il s'est séparé de la cuirasse. Et c'est à nous d'en faire autant, se débarrasser de tout ce qui est charnel en nous et de nous confier en Dieu. Les pierres qu'il a saisies, David, ce sont la parole de Dieu, les promesses, tout ce qui vient de Dieu. Il n'a saisi que ça. Il allait au-devant d'un géant, quelqu'un qui faisait plus de 2 mètres. Il a choisi 5 petites pierres polies. Et en fin de compte, au travers de ça, Dieu veut nous bénir quand on se débarrasse de tout ce qui nous gêne, de tout ce qui est humain en nous. Dieu nous bénit. Et il nous donne cette capacité de faire tomber les Goliaths qui sont devant nous, qui peuvent être la crainte, qui peuvent être le doute, qui peuvent être le passé, qui peut être l'angoisse, la maladie, toutes ces montagnes qu'on a devant nous. Et ainsi, David a pu courir, comme ce verset qu'on voit en Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est la cuirasse bien sûr, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Alors, je vais vous parler maintenant des 5 pierres. J'ai imaginé à quoi pouvaient correspondre ces 5 pierres. Je vais vous demander de tourner en Marc, chapitre 5. À partir du verset 25 jusqu'à 28, 29, pardon. Marc, chapitre 5, verset 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La première pierre, c'est celle de la conviction. Cette dame, elle s'est avancée sur Jésus avec la conviction de pouvoir être guérie. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle avait cette conviction dans son cœur. Elle n'avait plus de santé, elle n'avait plus d'argent. Elle n'avait qu'une seule conviction, celle de Jésus-Christ. Et on pourrait s'imaginer qu'il suffisait qu'elle se lève, qu'elle aille devant Jésus. Elle n'a fait que toucher le bord de son vêtement. Que toucher le bord de son vêtement. Elle n'est pas allée voir un rabbin, elle n'est pas allée voir quelqu'un d'autre, un éminent docteur de la loi. Elle est juste allée voir celui qui lui a donné cette conviction qu'elle allait être guérie. Et elle était sûre de cette conviction. Parce que quand on regarde, vous imaginez, elle a dû ramper au milieu de la foule. Et Jésus, lui, il allait à droite, il allait à gauche, il y a des gens qui lui passaient devant. Elle rampait jusqu'au moment où elle a tendu la main et elle a juste touché le bord de son vêtement. Et la parole nous dit, à l'instant, elle fut guérie. Elle a choisi, comme David, une seule pierre, la conviction. Et elle a été guérie. Et Christ a fait le même. Christ s'est dépouillé lui-même. Il a été poli par la croix pour devenir quelque chose d'efficace dans le corps et le cœur de l'humanité. Ayons cette pierre de conviction dans nos cœurs. pour aller jusqu'à toucher le bord du vêtement de Jésus et de savoir que si tu vas devant Jésus, tu seras guéri. Si tu lèves les yeux vers Jésus, tu seras guéri. Il n'est pas parlé d'étreindre Jésus. Il n'est pas parlé de prier pendant des heures. Simplement toucher le bord du vêtement. La deuxième pierre, c'est celle de la persévérance. En Marc chapitre 10, verset 46, c'est encore un passage qu'on connaît très bien. 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La foule le reprenait pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée était aveugle, mais il n'était pas sourd. Il avait entendu parler de Jésus. Il connaissait le potentiel de Jésus. Il savait qui il était. Il savait qu'il était le seul à lui rendre la vue. Et malgré cette foule qui lui disait « Mais tais-toi, c'est le maître !» il criait plus fort. Il a persévéré, il a continué, malgré l'opposition de la foule. En fin de compte, ça a montré qu'il croyait dans le Messie. Il croyait dans la puissance du Messie. Il croyait en Jésus. Il savait que c'était celui que le peuple d'Israël attendait. Il a dû donner une énergie incroyable, parce qu'il devait être ceinturé, il devait être mis de côté. Il a jeté la cuirasse du cri des autres qui lui disaient « Tais-toi, c'est le maître !» Mais il a crié encore plus fort. Et ça fait arrêter Jésus. Jésus s'est arrêté parce qu'il l'a entendu. Ça nous fait réfléchir quant à nos prières. Est-ce qu'on est persévérant dans la prière lorsqu'on a un souci? Est-ce qu'on s'arrête aux premières choses en se disant de toute façon Dieu ne me répond pas? Ou est-ce que je continue? Est-ce que je prie plus fort? Malgré l'opposition, malgré les pensées qui viennent, est-ce que je persévère dans la prière? En sachant que Jésus va s'arrêter sur mon problème. Jésus a été ému de compassion. Il a dit, allez me le chercher, amenez-moi cet aveugle. Qu'est-ce qu'il a fait, Bartimée? Il s'est levé. Il s'est levé. 46. Prends ton courage, lève-toi, il t'appelle. Est-ce qu'on s'est levé le jour où Jésus nous a appelés? Est-ce qu'on se lève le jour où Jésus nous appelle? Bartimée s'est levé. Et il a fait quelque chose de très important. L'aveugle jeta son manteau. Et se levant d'un bond, pour un aveugle, c'est pas mal, hein? Il jeta son manteau et se leva d'un bond. Il n'a pas hésité à jeter son ancienne vie. Lui qui était mendiant, lui qui était aveugle, lui qui était le rebut de la société, il a entendu l'appel de Jésus qui lui a dit « Amenez-le-moi ». Et de ses disciples qui lui a dit « Viens, le maître t'appelle, lève-toi ». Il n'a pas dit « Ben non, je suis aveugle, je risque de me buter, je risque de me faire mal, c'est à vous de m'amener ». Il n'a absolument pas regardé sa condition. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a jeté son manteau. Parfois dans nos vies, on garde des choses de notre passé qui nous empêchent de nous lever, qui pèsent sur nos épaules. Alors que Jésus n'avait qu'une seule question à poser à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Il n'avait que cette question. Il n'avait rien d'autre à dire. Que veux-tu que je te fasse? Et si Bartimée était resté dans son coin, se lamenter sur sa condition, à dire ben, « je ne peux pas aller devant le maître parce que je suis aveugle, il faut que j'attende que quelqu'un m'amène, ou il faut que j'attende que Jésus vienne. » Non, Jésus s'est arrêté. Il a dit « qu'on me l'amène ». Et les disciples ont dit « lève-toi, le maître t'appelle ». Il ne s'est pas laissé porter, Bartimée. Il s'est levé d'un bond, c'est la parole qui nous le dit. Il a jeté tout ce qui était ancien et s'est présenté devant Jésus. Et Jésus lui a posé cette question et à la réponse, il lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Et la parole nous dit, 2 jours après, Bartimée a été guéri. Non? Si? Aussitôt. Voilà ce qui arrive lorsqu'on se met devant le Seigneur. Aussitôt. Il n'a pas attendu 2 jours. Jésus lui a dit, mais va, va, vas-y, tu peux t'en aller, ta foi t'a guéri. Oh, et aussitôt. Beaucoup de personnes pensent que, bah oui, il faut encore, il faut faire ceci, il faut refaire cela, Non. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Lorsque Jésus décide, personne ne peut l'arrêter. Même la foule qui était autour, qui avait repris Bartimée, Jésus avait décidé de le guérir. Et aussitôt, il l'a fait. Et la parole est claire là-dessus en acte 2, verset 38, il est dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » J'ai dû me tromper dans mes feuilles, mais bon, je me suis trompé dans mes feuilles. Donc, la troisième chose, la troisième pierre, c'est la pierre de la foi. Et on va prendre Jean. L'évangile de Jean, chapitre 4. Et vous allez voir à quel point, des fois, on ne fait pas attention à ce qui est marqué. Mais c'est tellement profond. Chapitre 4, versets 46 à 53. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Verset 50, « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit !» Il leur demanda à quelle heure ils s'étaient trouvés mieux, et ils lui dirent hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit », et il crut, lui et toute sa maison. L'officier du roi descend parce qu'il entend parler de Jésus. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était pas un docteur de la loi, c'était pas quelqu'un de religieux. C'était juste quelqu'un qui savait que Jésus seul pouvait guérir son fils. C'est incroyable, hein? Il n'y avait aucun tralala. Il n'y avait pas de rang dans la société, entre guillemets, d'église. C'était juste quelqu'un qui croyait que Jésus seul pouvait le guérir. Et moi, j'aime bien. J'aime bien cette parole parce que alors on s'imagine que voilà, l'officier s'attendait à plein de choses venant de Jésus. Jésus lui dit simplement va, va, ton fils vit. Jésus lui a juste dit ça. Il ne lui a pas dit attends, je vais me mettre 15 minutes à côté, je vais prier intensément mon père. Jésus lui a simplement dit va, ton fils vit. Alors la réaction de l'officier, il a insisté, il a dit c'est mis à genoux devant le Seigneur. Non, viens avec moi. La parole ne nous dit absolument pas ça. Cet homme crut à la parole de Jésus. Jésus lui dit va, ton fils vit, alors qu'il avait vu son fils à la mort. Jésus lui dit va, ton fils vit. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va tout de suite. Et il a cru à la parole de Jésus. Quelle foi! Quelle foi! Vous imaginez? Si vous avez votre enfant qui est à la mort, et quelqu'un vous dit, il est à l'hôpital là, il est à Lille, quelqu'un vous dit, tu peux y aller, ton fils est guéri. Non mais arrête, hier je l'ai vu encore, il faisait 42 de fièvre. Vous imaginez la foi de cet officier qui a dit, qui est parti, rien qu'avec cette petite parole, va, ton fils vit. Et on peut s'imaginer que sur la route, il y a peut-être eu à un moment un doute. Mais vous imaginez quand les gens sont arrivés devant lui, ils lui ont dit, mais ton fils vit ? Lâche tout le bouleversement qu'il a dû avoir dans son cœur. Mais cet homme est grand. Ce Jésus que je crois être le Fils de Dieu a sauvé mon fils. C'est ce qu'il s'est dit, je suis persuadé, c'est ce que l'officier s'est dit. Ce Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu. Là aussi, Jésus était la pierre polie pour cet officier. C'était le Fils de Dieu. Cette pierre qui allait s'enfoncer profondément dans le cœur de l'officier et dans toute sa famille. Cette foi qui allait recouvrir toute cette famille. Et moi je te dis ce matin, si tu veux avoir cette même foi, lorsque Jésus te parle au travers de sa parole, crois simplement. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ a donné son Fils, et Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, crois à cette parole. Tout simplement. Il n'y a rien au-dessus de cette parole. Il n'y a aucun doute à avoir. Les doutes, c'est le malin qui le met. Cet officier n'a eu aucun doute. Il a pris la parole et il est parti. Combien de gens on voit reculer dans leur foi parce qu'à un moment donné, ils ont eu des doutes. Mais cet officier n'a eu aucun doute. Il savait son fils à la mort, il est parti simplement avec cette toute petite parole de Jésus. Et il a vu le miracle arriver. La quatrième, c'est, ça se trouve en Jean, La quatrième pierre, c'est la pierre de l'obéissance qui se trouve en Jean chapitre 9. On va aller jusqu'au verset 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Il cracha par terre et fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Quelle technique! Quelle technique! Il a vu un hôpital, le plus grand des professeurs, qui lui a commandé tout un traitement lourd, et l'aveugle a vu clair. Vous imaginez, avec de la salive. Et il a dit: Va et lave-toi. Encore une fois, il y avait quelque chose qui devait s'activer chez cet aveugle. Il n'a pas pris par la main et dit « Je vais t'emmener ». Il lui a dit « Va et lave-toi ». C'est bizarre, on dit à un aveugle « Va ». « Va au réservoir de Siloé », qui, bien sûr, veut dire « envoyer ». Moi, j'aime bien le traitement spécial que Jésus donne. Ce n'est pas un traitement de thalasso, c'est de la salive. Mais c'est ce qu'il y a derrière. C'est ce commandement que Jésus lui donne à cet aveugle. Va et lave-toi. Imaginons que cet aveugle dise à Jésus: Mais écoute, Jésus, moi je ne peux pas y aller et tout. Bah, écoute, je vais laisser sécher puis je vais attendre que la pluie arrive. Il n'aurait jamais été guéri. Il n'aurait jamais été guéri. Est-ce qu'on est prêt chacun à se rappeler qu'on n'est que de la poussière devant Dieu? Est-ce qu'on est prêt chacun à enlever le carcan du moi? Pour se dire que Jésus n'a juste qu'à appliquer sa salive pour qu'on voit clair. Si vous voyez, vous voulez voir clair aujourd'hui, il faut simplement obéir à la parole, au commandement de Jésus. Va et lave-toi. Va et lave-toi. C'est pas en s'asseyant sur une chaise et en attendant que l'esprit daigne nous atteindre. Non, il faut se lever, aller et se laver. Se laver, c'est devant le Seigneur, dans sa petite chambre. Quand on parle ici du fait de voir clair, bien sûr, c'est le côté spirituel. Le Seigneur va faire tomber les écailles qui sont devant vos yeux et va vous montrer la vraie vie, la sienne. La vraie vie dans votre vie. On est appelé à obéir à Jésus. On n'est pas appelé à le commander. Je voulais parler tout à l'heure de ça dans la présentation, où combien de fois on a vu les disciples reprendre Jésus. Combien de fois? Alors qu'on n'en est pas digne. Combien de fois on commande Jésus? Oui, j'aimerais ceci dans nos prières. J'aimerais cela. Jésus a craché par terre. Il a mis sa salive sur les yeux, avec la boue sur les yeux de l'aveugle. Il a dit: Va et lave-toi. Lui y est allé. Il a obéi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Instantanément, il a été guéri. Il n'a pas été guéri 2 jours après. C'est quand il s'est lavé, il a été guéri. Vous voulez être guéri aujourd'hui? Vous voulez être guéri du péché? Vous voulez être guéri de tout ce qui vous envahit? Obéissez, levez-vous, avancez et lavez-vous. Et c'est là où je devais vous dire, acte 2, verset 38, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Tout simplement. Tout simplement. C'est se laver devant Christ. Revêtir la robe de justice qui couvre tout. Et moi, je vous dis ce matin que Dieu ne regarde pas votre passé. Parce que l'accusateur va vous dire, oui, mais regarde comment tu étais. Lorsque vous êtes en Christ, il y a une scission. Parce que vous êtes une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes sont passées. C'est la parole qui vous le dit. Alors si vous êtes envahi par votre passé, si vous êtes envahi par des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est l'homme malin qui vous parle. Et vous n'avez rien à faire avec le malin ce matin. Vous êtes enfant de Dieu. Obéissez, allez vous laver au réservoir de Siloé. Et vous verrez clair. Vous aurez le Saint-Esprit dans vos vies. La cinquième et dernière pierre, c'est la pierre de l'espérance. Et on va aller dans Romains chapitre 4. Versets 18 à 22. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, tu seras. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'en douta point. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. On parle de qui, là? Eh oui, le père des nations. Et si vous lisez Hébreux chapitre 11, versets 11 et 12, il est marqué « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. » Croire l'impossible quand Dieu le promet, est-ce que c'est raisonnable? Eux, ils ont mis à part le fait que leur corps était usé, que humainement c'était pas possible, ils ont cru, ils ont dit oui, je crois en ce que Dieu a promis. Et ce que Dieu avait promis est arrivé. Et il faut enlever de nos yeux les cuirasses qu'on a sur nos corps, qu'on a dans nos vies. Et on doit prendre cette pierre de l'espérance qu'on lit dans la parole de Dieu. Toutes ces promesses n'ont pas été jetées en l'air. Dieu ne se prévaut pas de ses promesses. Il ne revient jamais sur ses promesses. Ces promesses qui sont marquées sont pour chacun d'entre nous. Et là, où la main de l'homme ne peut agir, Dieu agit. Et il faut garder cet espoir que même si ma situation est des pires, Dieu agira en son temps. tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous éduquer. Il va nous apprendre plein de choses, la patience, la persévérance. En Hébreux chapitre 6, 19, versets 19 et 20, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Grâce à Jésus-Christ, et on le voit le mardi soir quand on étudie Hébreux, il n'y a plus ce voile épais qui faisait 12 cm, qui était impossible à pénétrer. Grâce à Jésus-Christ, cette séparation entre Dieu et nous n'existe plus. Lorsque Dieu nous voit, il nous voit comme au travers de Christ. Dieu nous appelle à persévérer dans ce que nous sommes aujourd'hui. Il ne nous appelle pas à pleurer sur notre sort, à pleurer sur nos conditions, à pleurer sur nos maladies. Il nous dit simplement « Espère en moi et tu verras des miracles se produire. » Saül, David, il est parti devant ce géant surarmé avec 5 pierres. Une seule a suffi. Une seule a suffi. Imaginez-vous la puissance de Dieu dans votre vie. Une seule intervention suffit. Encore faut-il être conscient de ces 5 pierres dans nos vies qui sont la conviction, la persévérance, la foi, l'obéissance, l'espérance. Est-ce que j'ai dans mon cœur ces 5 pierres? Est-ce que je les ai à demeure? Est-ce que je suis prêt à les utiliser lorsque les choses ne vont pas? David n'a pas regardé sa petite taille. Il n'a pas regardé qu'il n'avait pas de cuirasse, il n'avait pas regardé qu'il n'avait pas de bouclier, il est allé simplement avec une fronde et une pierre. Il n'a pas fait 20 tentatives. Il l'a fait une seule fois et il a terrassé Goliath. Ce matin, Dieu veut agir une seule fois dans votre vie et il va terrasser tout ce qu'il y a dans votre vie. Est-ce que vous voulez vous lever ce matin? Est-ce que vous voulez avancer ce matin? Est-ce que vous voulez vous laver devant Jésus-Christ? Si oui, moi je vous invite à le faire. Et si vous ne l'avez jamais fait, peut-être que c'est aujourd'hui même, comme on l'a lu, aussitôt. Dieu agira. Il va agir avec sa puissance. Il va vous laver. Il va vous purifier. Il va vous rendre fort. Même si les gens vous voient comme faible, même si le monde vous voit comme faible. Vous imaginez Goliath, quand il a vu ce petit bout d'homme arriver devant lui, est-ce qu'il s'est imaginé une seule fois que dans la minute qui allait suivre, il allait être mort? Je ne suis pas certain. La différence, c'est que David en avait la conviction qu'il allait terrasser Goliath. C'est ça que vous devez avoir dans votre vie aujourd'hui. Avoir cette conviction que Dieu a la puissance d'agir et il le fera. Merci Seigneur, parce que nous pouvons voir que dans ta parole, il y a de quoi être renforcé. Il y a de quoi être vivant grâce à ton action instantanée dans nos vies. Seigneur, tu vois le cœur de mes frères et sœurs ici, de ceux qui n'osent pas peut-être se lever dans leur vie, de ceux qui n'osent pas s'avancer peut-être, de ceux qui ont peur du « quand dira-t-on ?» Mais Seigneur, pour toi, c'est aussitôt que tu guéris. Pour toi, c'est aussitôt que tu sauves. Il n'y a pas de délai, parce que tu sais ce que l'on veut. Tu veux simplement qu'on puisse le dire, que veux-tu que je te fasse ? Simplement dire, ben Seigneur, je suis rien devant toi. Fais-moi devenir à ton image. Seigneur, que ton esprit agisse avec puissance dans le cœur de ceux et celles qui sont dans cette situation. Dans ceux et celles qui se battent tous les jours. Tu as cette capacité, avec ces cinq pierres, de redonner un sens aux vies et d'aller dans le bon sens dans la vie, celle du chemin, de la vérité et de la vie, qui est Jésus-Christ. Sauve ce matin par ton esprit, Seigneur. Amen.